Pause littéraire sur RCN. Les livres, les auteurs, avec Jean-Jacques Bitton.
Bonjour, notre invité est Jérôme Palazzolo. Il est médecin psychiatre spécialisé en psychopharmacologie et en thérapie cognitivo-comportementale. Il exerce en cabinet libéral à Nice. Il est également professeur d'université en psychologie clinique et médicale. Il est l'auteur d'un livre qui s'intitule « Le petit traité de self-défense psychologique, comment gérer l'agressivité ». C'est un livre qui est paru aux éditions Odile Jacob. Ce livre est préfacé par Franck Robert. Il est athlète de haut niveau en arts martiaux. Jérôme Palazzolo, bonjour.
Bonjour.
Alors, quel rapprochement peut-on faire entre les arts martiaux et la self-défense psychologique ?
Et c'est un peu la même dynamique, c'est-à-dire que l'objectif d'un art martial, c'est d'éviter le combat avant tout. Et puis si le combat arrive, c'est de pouvoir se défendre avec des armes appropriées. Et c'est un peu la même chose au niveau psychologique, c'est-à-dire que l'objectif, c'est d'essayer au maximum d'éviter le conflit, même si vous avez en face de vous quelqu'un qui vous agresse verbalement. Et si vraiment cette personne insiste et elle est dans une agression continue, essayez, grâce à des petites techniques, des petites stratégies qui sont développées dans le livre, de répondre de manière adaptée.
Alors justement, comment réagir quand on a en face de soi quelqu'un de très agressif verbalement ?
Il y a plusieurs phases. Première phase déjà, c'est essayer de s'analyser soi-même. C'est-à-dire, c'est d'essayer de voir comment on va réagir. Parce qu'il y a un grand principe qu'on retrouve en neurosciences qui est le principe des neurones miroirs. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un d'agressif en face de vous, vous allez avoir naturellement tendance soit à répondre par de l'agressivité, soit à répondre par de la fuite, soit à répondre par de la sidération. Donc l'objectif, c'est d'essayer déjà de s'analyser. Comment on se sent? Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que le cœur bat plus vite? Est-ce qu'on a les mâchoires qui se serrent? Est-ce qu'on a les poings qui se tendent? Etc., etc.
Mais ce qui est intéressant, des fois, quand on a affaire à quelqu'un comme ça de très agressif, c'est que la réaction paraît tellement disproportionnée par rapport à ce qui s'est passé qu'on hésite à répondre. On a envie de dire, mais il est complètement givré, ce type. Est-ce que je vais vraiment rentrer dans son jeu ou est-ce que je vais plutôt le fuir, voire le mépriser ?
Et complètement. Et puis, l'objectif, donc, après s'être analysé soi-même, c'est essayer d'analyser la personne en face, c'est-à-dire d'essayer de voir aussi en quoi il peut avoir raison d'être énervé. Est-ce que j'ai fait quelque chose qui a pu l'énerver? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui a pu le blesser, qui a pu lui faire de la peine? Donc déjà, c'est un premier point. Et puis ensuite, on va essayer d'analyser comment il se comporte. Est-ce qu'il crie? Est-ce qu'il est très calme? Est-ce qu'il a un regard fixe? Est-ce qu'il a les mâchoires serrées lui aussi? Est-ce qu'il est tout blanc? Est-ce qu'il est tout rouge? Tout ça pour essayer d'évaluer en fait son degré de dangerosité. Et souvent, la personne qui se met à hurler, à gesticuler, c'est pas la plus dangereuse en général.
Tout à fait. Alors, effectivement, une personne qui se met à hurler, à gesticuler, des fois, elle n'est pas nécessairement dangereuse. Mais en revanche, il y a des gens, des fois, qui se montrent particulièrement agressifs verbalement, mais ils arrivent quand même à garder leur calme. Ils vous menacent, style « je vais te faire une grosse tête », quelque chose comme ça. Alors là, comment évaluer ? La personne est visiblement nettement plus dangereuse.
Et elle sera nettement plus dangereuse. Et l'objectif dans ce cadre-là, c'est d'essayer de réfléchir comment réagir face à ça. C'est-à-dire quelqu'un qui vous menace directement, est-ce que l'objectif c'est de réagir ce qu'on appelle en coupant le son, c'est-à-dire qu'on arrête de discuter parce que ça sert à rien, la personne s'excite de toute façon, ou est-ce que dans ce cadre-là on réagit avec de l'humour? Ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Ou est-ce qu'on réagit en changeant de sujet ? L'objectif, c'est d'essayer, alors comme diraient les mentalistes, de rentrer dans sa tête et d'essayer de comprendre son mode de fonctionnement et à partir de là, de proposer une réponse adaptée.
Alors, pour ce qui est de l'humour, ça peut passer, mais ça peut aussi des fois surexciter la personne. Et il y a peut-être un paramètre intéressant qui sera à prendre en compte dans ce que vous proposez. Est-ce qu'on a en face de soi une personne en relative bonne santé mentale ou est-ce qu'on a en face de soi, par exemple, une personne qui a des tendances paranoïaques, voire qui est paranoïaque ? Alors là, c'est le jeu se complique, on va dire.
Tout à fait. Là, on va tomber vraiment dans la pathologie. Oui. Mais même pour ça, il y a des méthodes à mettre en œuvre, justement, d'essayer de pas contrer la personne, quelqu'un qui va vraiment souffrir de paranoïa, l'objectif c'est de surtout pas le contrer ou lui dire mais ce que tu racontes c'est n'importe quoi. C'est essayer de voir en quoi, comme on l'évoquait, il peut avoir raison, c'est-à-dire que le paranoïaque va être souvent dans une interprétation de la réalité, donc d'essayer de voir qu'est-ce qu'il a saisi de la réalité et comment arriver dans ce contexte-là, si ce n'est à lui faire entendre raison, mais en tout cas à l'apaiser, le calmer et lui prouver qu'on ne lui veut aucun mal, par exemple.
Oui, enfin, c'est quand même pas évident du tout quand on vit la situation, parce qu'on n'a pas toujours le temps, on n'a peut-être pas toujours les réflexes psychologiquement parlant d'évaluer la situation de cette façon. Peut-être même un professionnel, un style psychologue, psychiatre, quand il se trouve en face de quelqu'un comme ça, c'est pas sûr qu'il puisse appliquer exactement tout ce qu'il y a dans ce traité.
Ah, c'est certain, c'est-à-dire que, d'ailleurs, dans l'ouvrage, je détermine une vingtaine de profils agresseurs, en essayant de déterminer un petit peu ce qui les motive, la manière dont ils se comportent, et l'objectif c'est d'essayer de repérer un petit peu dans le discours de l'autre dans quel profil il se situe, pour essayer de répondre au mieux dans ce cadre.
Oui, mais il faudrait, pour pouvoir mener à bien ce que vous proposez dans ce livre, il faudrait avoir quand même de bonnes connaissances psychologiques, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, ce qui est même loin d'être le cas de tout le monde.
Alors, pas nécessairement, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire un diagnostic, c'est plus des connaissances, et c'est ce qu'on développe dans l'ouvrage justement, des connaissances de la communication, c'est-à-dire comment le message passe. Et dans le cas d'une pathologie, le message va passer par un biais problématique, mais globalement, c'est vraiment d'agir sur la technique de communication. Le but, c'est pas de faire un diagnostic, parce que si vous avez quelqu'un en face de vous qui se met à délirer, vous allez vous en rendre compte ou peut-être pas. Mais le but, c'est d'essayer de voir en quoi cette personne peut être agressive vis-à-vis de vous et en quoi elle peut être dangereuse et comment arriver à maîtriser les choses dans ce cadre-là.
Alors, docteur Jérôme Palazzolo, alors vous savez mieux que moi qu'on parlait tout à l'heure de la personnalité paranoïaque. Vous savez très bien que la personnalité paranoïaque ou le paranoïaque, quand on a eu une altercation avec lui, des fois, même après que l'altercation est passée, il peut vous poursuivre pendant des mois et des mois et continuer à se montrer agressif, à vous menacer.
Bien sûr, l'objectif c'est d'essayer de savoir pourquoi. Qu'est-ce qui nous reproche? Est-ce que c'est quelque chose de complètement délirant? Et dans ce cas-là, d'essayer de pouvoir en discuter avec lui. Maintenant, si vraiment on est dans un contexte, comme vous l'évoquez, avec quelqu'un qui vous persécute en continu, souvent ce qui est préconisé d'ailleurs par les psys en au sens large, c'est de faire appel à un tiers. C'est-à-dire le tiers, ça peut être un professionnel du soin de la santé mentale, ça peut être la police, ça peut être le fait de porter plainte. Mais globalement, l'objectif, lorsqu'on a affaire un paranoïaque, c'est de ne pas être dans une relation duelle, c'est-à-dire pas être toi contre moi, c'est faire intervenir le tiers, quelque chose qui est plus fort que cette simple relation, la loi ou la médecine par exemple.
C'est pas toujours évident, parce que si on va à un commissariat de police déposer plainte, on dira, en disant monsieur un tel me persécute, il essaye de m'intimider, il est possible que la plainte soit classée sans suite.
Ah, c'est possible, d'où l'intérêt aussi de faire appel aux professionnels de soins qui, eux, prendront en compte la menace normalement à son bon niveau, quoi.
Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire?
Quelqu'un qui vraiment se met à délirer, alors que ce soit un paranoïaque,
aller jusqu'au délire.
Non, bien sûr, mais souvent le paranoïaque va délirer dans le sens où le délire, c'est pas nécessairement un délire imaginatif ou un délire hallucinatoire, ça peut être un délire interprétatif, c'est-à-dire que le paranoïaque va penser que vous lui avez fait du mal. Vous descendez vos poubelles à 5h du matin, c'est exprès pour le réveiller, exprès pour l'embêter. Donc l'objectif c'est d'essayer de voir, comme on l'évoquait, en quoi il pourrait avoir raison, et dans ce cadre-là, surtout d'essayer de vous prémunir et de faire intervenir un tiers.
Mais encore faut-il pouvoir engager un entretien avec lui, c'est pas du tout évident.
Ah complètement, à ce moment-là vous pouvez directement faire intervenir le tiers et ne pas hésiter à signaler la personne à ce moment-là à un centre de santé, ce qu'on appelle un centre médico-psychologique, qui peut intervenir par rapport à quelqu'un qui est potentiellement dangereux.
Oui, mais enfin, ici encore, c'est pas toujours évident, parce que la personne, des fois, qui est potentiellement dangereuse, ça peut être quelqu'un qui travaille, qui est intégré socialement, qui est père de famille, et malheureusement, les apparences sont trompeuses. On croit que cette personne est en bonne santé mentale, alors qu'elle ne l'est pas du tout.
Ah, d'où l'intérêt d'une évaluation qui est faite par des professionnels. Ça, c'est certain. Et effectivement, il y a bon nombre de personnes qui ont souci, justement, de santé mentale, mais qui sont bien insérées socialement, qui travaillent, qui ont des enfants. C'est pas un masque par rapport à la problématique. Et l'objectif, c'est qu'effectivement, des professionnels de soins puissent évaluer vraiment la problématique de la personne et éventuellement mesurer sa dangerosité.
Alors, vous parlez dans ce petit traité de self-défense psychologique, comment se défendre verbalement, mais est-ce que c'est toujours face à des agressions, ou est-ce qu'il peut y avoir des agressions beaucoup plus sournoises, c'est-à-dire des gens qui ne vous agressent pas et qui vous disent pas je vais vous faire une grosse tête, mais qui peuvent en revanche vous menacer d'une autre façon?
Complètement. C'est ce que dans le livre je détermine comme les agresseurs de niveau 1. C'est-à-dire que par exemple, vous avez des agresseurs qui vont vous agresser sur le ton de la plaisanterie. Par exemple, j'avais le cas d'une dame qui était une jeune maman et il y a quelqu'un dans la rue qui lui a dit « Oh, comme elle est jolie votre fille, elle vous ressemble absolument pas ». C'est-à-dire qu'en sous-jacent, c'est « elle, elle est jolie et vous, vous êtes moche ». Donc, dans ce cadre-là, la personne s'est sentie agressée et l'objectif, c'est d'essayer de répondre au mieux, parce que si on répond en agressant la personne, c'est la double peine. C'est-à-dire que la personne va dire « mais moi, je vous ai pas agressé du tout, c'est vous qui prenez tout mal, c'est vous qui m'agressez, etc. etc. » Donc là, pour le coup, la personne avait répondu avec de l'humour en disant « je lui fais faire de la chirurgie esthétique à ma petite pour qu'elle me ressemble pas ». Donc, c'est un moyen de pouvoir se sortir de ce mauvais pas.
Alors, docteur Jérôme Palazzolo, bon, tout ça, c'est tout à fait passionnant. Mais quelque part, est-ce que quand on est dans une situation comme le cas de cette dame que vous venez de citer, après tout, c'est un inconnu, on n'est pas non plus obligé de répondre à tout?
On n'est pas du tout obligé de répondre. Et justement, c'est plus compliqué quand l'agression vient de l'entourage, ou vient encore pire, de l'entourage professionnel. Parce que là, on peut même tomber dans une sorte de harcèlement dans ce contexte. Donc là aussi, l'objectif, c'est de répondre avec les bonnes armes et d'essayer de se prémunir de ça.
Est-ce que dans certains cas, vous préconisez ce qu'on appelle le mépris ?
Ah bien sûr, le mépris peut être une arme à utiliser, mais toujours pareil, comme tout, c'est-à-dire qu'il y a les deux côtés de la médaille, c'est-à-dire que le mépris, il faut pas non plus que la personne qui se retrouve méprisée se retrouve à être encore plus agressive par rapport à cette attitude. Donc tout l'objectif, c'est d'essayer de s'analyser, d'analyser l'autre, d'analyser la relation entre les deux, et d'essayer de choisir parmi les outils qu'on propose l'outil le plus adapté à la situation.
Alors, ce que j'ai remarqué aussi dans les relations sociales, c'est qu'il y a certaines personnes, alors, je ne sais pas exactement pourquoi, elles sont toujours agressives quand elles parlent. Alors c'est un petit peu compliqué d'avoir des entretiens en toute tranquillité avec ces gens-là.
Complètement, il y a des personnes qui en fait sont toujours agressives quand elles parlent, mais pas à dessein d'agressivité, c'est-à-dire que c'est leur manière de s'exprimer, leur manière de fonctionner, et tout l'objectif justement c'est d'analyser un petit peu leur discours, d'analyser un petit peu leur gestuelle, et effectivement s'apercevoir que finalement c'est pas spécifiquement agressif. Je veux dire là il y a pas longtemps, ce week-end, j'étais en Italie, je voyais deux Italiens qui parlaient, on avait l'impression qu'ils allaient se battre, alors qu'en fait ils débattaient de quelque chose sans s'agresser du tout. Maintenant si vous allez au Japon, vous n'allez jamais retrouver ce type d'échange. Donc c'est important de remettre tout ça dans le contexte.
Donc finalement c'est un livre à lire pour essayer un petit peu de, je dirais pas d'harmoniser, mais d'apaiser un petit peu nos relations sociales. Parce que c'est vrai que l'échange de parole n'est pas toujours évident.
C'est surtout un livre, je pense, pour se préserver en essayant de mieux comprendre ce qui se trame lorsqu'on se sent agressé. Peut-être que la personne en face n'a pas voulu nous agresser du tout, ou peut-être qu'elle a vraiment voulu nous agresser, et dans ce cas-là, essayer de déterminer quelle méthode on peut proposer pour s'en sortir au mieux et se préserver au mieux.
Docteur Jérôme Palazzolo, donc nous arrivons au terme de cet entretien. Alors je rappelle que vous êtes médecin psychiatre spécialisé en psychopharmacologie et en thérapie cognitivo-comportementale. Et je rappelle également le titre de ce livre, Petit traité de self-défense psychologique, comment gérer l'agressivité. C'est un livre qui est préfacé par Franck Ropers, qui est athlète de haut niveau en arts martiaux. Et c'est un livre qui est paru aux éditions Odile Jacob. On peut écouter cet entretien sur notre site rcnradio.info. Docteur Jérôme Palazzolo, je vous remercie.
Pause littéraire sur RCN. Les livres, les auteurs, avec Jean-Jacques Bitton.